Bonsoir.
Bonsoir. Alors, 1er juin. 1er juin.
1er juin.
Mais il est 14h, passé de 4 minutes.
14h.
19h, pardon.
Passé de 4... Il y a au moins un pays où il doit être 14h, passé de 4 minutes, c'est vrai.
C'est l'heure du Canu Info.
Et ce soir, on va commencer par vous parler carrément du, bah, comme d'hab depuis 3 mois, hein, du mouvement contre la loi travail. Donc, et donc, on va commencer par une petite action de la CNT Énergie qui met tout le monde en heure creuse. Ça se passe à la Courneuve.
Résistance à la loi de travail, mais là, quand on dit résistance, on parle du maquis.
Du maquis de la Deuxième Guerre mondiale, oui, monsieur. La CFE-CGC, un syndicat dont on ne parle pas très souvent ici, a élu un nouveau président cet après-midi.
Ça, ça va être intéressant.
Très bien.
Le Figaro a pris possession du corps de France 2.
Qu'on casse ou pas la loi travail, on n'en veut pas.
C'est pas exactement la Macron philosophie.
Plainte contre les flics, les victimes peuvent toujours espérer ou en fait non, elles peuvent déjà plus espérer grand chose.
Le responsable de la CGT Infocom face à une plainte pour diffamation de la police.
Et Laurent Berger qui soutient coûte que coûte la loi travail.
Génial. Après, on passera très rapidement au Roundup, le retour du Roundup ou le futur retour, enfin un micmac autour du Roundup.
Une petite parano post-attentat.
Une histoire de crocodile, les îles Caïmans qui adorent nos banques.
Un nouveau ministre d'extrême droite, lequel dans le globe, dans tout ce qui arrive. Là, on va vous parler de celui qui vient d'arriver en Israël.
Hissène Habré, condamné à perpète.
Et pour finir, bah si on a le temps, parce que finalement, une présentation d'une jolie bande dessinée.
Ouais,
on trouvera le temps.
Peut-être avant, un petit I Love Trump.
Ah, oups, j'avais
depuis
oublié.
La Corée du Nord.
Après le sabotage des lignes de téléphone en Haute-Loire, voici un nouvel épisode de la lutte des classes. Un an après, alors tout ça se passe au moment où un an après, un premier changement de logo qui aura déjà coûté 30 millions d'euros à ERDF. Et bon, aujourd'hui, ERDF dépense 300 millions d'euros. Bon, 25 millions d'après la direction, mais 300 millions d'après les syndicats. Pour changer de nom, et donc ça ne va plus s'appeler ERDF, ça va s'appeler Enedis, ça vaut bien le coup de dépenser de la thune.
Ah ouais, c'est sûr.
Et donc c'est à cette occasion, mais quand même surtout contre la loi El Khomri, Valls, Hollande, etc., qui casse le code du travail, et aussi pour un retour au service public de l'énergie, que la CGT Énergie 93, en partenariat on pourrait dire, avec les Robin des Bois de l'énergie, ont passé ce matin en heure creuse le poste source de la Courneuve qui alimente certaines communes du 93 pour la plus grande satisfaction des usagers.
Ça, c'est futé quand même.
Ça, c'est futé. Et après, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont retrouvés à une soixantaine et puis ils ont bloqué à partir de 6h du matin l'accès au poste pour empêcher ERDF de rebasculer en heure pleine. Ça concerne quand même au moins 300 000 foyers entreprises de la Courneuve et des villes limitrophes qui donc sont restées en heure creuse à partir de ce matin. Ah, oups! Dis donc, j'avais lu ce matin, mais en fait, l'article date du 28 mai, du coup, je ne sais pas à combien de temps. En tout cas, ça a commencé.
En tout cas, une journée.
Ça a duré une journée. Ça a duré une journée.
Ouais, ouais.
Et une journée.
On leur tire notre chapeau.
Et c'est vrai qu'ils ont été assez malins de choisir, je pense, un des endroits les plus. Avec une densité de population les plus grandes en France, quoi.
C'est clair.
Et donc, de la loi travail à la résistance, il n'y a donc qu'un pas, et il y en a pour qui le temps n'altère pas leurs convictions. Et il s'agit de Camille Sénon, âgée de 93 ans, rescapée du massacre d'Oradour-sur-Glane. Alors on rappelle, Oradour-sur-Glane, c'est un village qui a été massacré par les Allemands et où 640 habitants ont été tués en juin 44, qui a refusé la décoration de l'Ordre National du Mérite. Et les motifs de son refus, donc il s'agit de son opposition à la loi travail. Pour elle, Et là, je cite, pas question d'accepter une décoration venant d'un gouvernement qui ne respecte pas les salariés. Je continue de citer, accepter d'être décoré, ce serait renier les engagements de toute ma vie. Elle a écrit à Valls, et là, je cite, que dans le contexte actuel, il m'est impossible d'accepter de votre part cette distinction, alors que je suis totalement solidaire des luttes menées depuis 2 mois par les salariés, les jeunes, une majorité des députés et de Français contre la loi travail que vous venez d'imposer par leur 49-3.
C'est wow,
la classe,
ouais,
la super classe. Et là, est-ce que tu vas nous parler d'un syndicat qui est plus à droite que la CFDT ?
Eh ben, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais alors finalement, c'est quand même pas si sûr que ça.
D'accord.
Parce que vraiment, vraiment, il n'y a vraiment plus personne qui veut de cette loi travail. Et donc, les militants de la CFE-CGC, alors, j'ai même pas noté ce que veut dire le sigle, mais c'est un peu long. Mais le deuxième CGC, ça veut dire Confédération Générale des Cadres. Donc, les militants de la CFE-CGC ont élu cet après-midi à la présidence de la Confédération François Homeril, ouvertement opposé à la loi travail et qui vient d'appeler le gouvernement à avoir le courage de faire marche arrière. Alors, qu'est-ce que c'est la CFE-CGC ? C'est la centrale des cadres. Elle compte 160 000 adhérents. Elle se porte plutôt bien dans les entreprises. C'est le premier syndicat Air France, le premier syndicat chez Renault, c'est le deuxième syndicat à EDF, etc. Donc, ERDF, donc, comment j'ai dit que ça s'appelait tout à l'heure
NGIS, un truc comme ça, avec des Y et des IS.
Machin truquis.
Premier syndicat, un peu partout.
Alors voilà, fondé en 1944 à l'initiative d'ingénieurs et de cadres. Syndicat, elle représente les cadres, les techniciens, les agents de maîtrise. Elle est surtout présente dans le secteur privé. 80% de ses adhérents viennent du privé. C'est le quatrième syndicat français, après la CGT, la CFDT et FO. Ah, mais il fallait pas que je dise ce truc tout de suite. Bon, c'est pas grave, j'ai dit après. Leur nouveau président, Homeril, semble bien parti pour faire emprunter à la CFE-CGC, qui est classée traditionnellement du côté de ce qu'on appelle les syndicats réformistes, c'est-à-dire
voilà,
la CFDT et la CFTC, pour le faire emprunter à la CGC une troisième voie dans le paysage syndical, celle de ce qu'il appelle le réformisme militant. Mal à l'aise avec la formule de syndicat réformiste, Monsieur Homeril assure que son organisation n'a pas vocation à être un toutou qui salue les réformes.
Ça, c'est pour la CFDT.
Plus à l'aise que la CFDT, tu disais, plus à droite que la CFDT, tu disais, eh bien non.
Absolument pas, voilà.
Carrément gauchiste par rapport à la CFDT. La Confédération avait pris ses distances avec les réformistes dès 2014. En n'approuvant pas le pacte de responsabilité, compliquant ainsi ses relations avec le MEDEF. Elle a confirmé cette ligne avec son opposition au projet de loi travail qui sent le moisi, selon son nouveau président. Le problème est déjà dans le titre. Je ne vois pas ce qu'elle apporte de positif à l'emploi, dit-il. Il est contre la plupart des mesures du texte, en particulier ce fameux article 2 sur l'inversion des normes, mais aussi les référendums en entreprise, la réforme de la médecine du travail. Et il nous dit, ce qui infuse partout dans cette loi, c'est la culpabilisation permanente des personnes qui travaillent. C'est exaspérant.
Wow.
La CFE-CGC sera toujours là pour démonter ce genre de discours.
Ah oui.
Ouais, bon, alors pour autant, la CFE-CGC n'appelle pas à manifester, contrairement à la CGT ou à FO, parce que ce n'est pas dans ses habitudes, entre guillemets.
Enfin, ils se rangent quand même du bon côté.
Ils sont pour les manifestations, mais quand même, il ne faudrait pas aller salir leur cravate.
Ah, peut-être encore une semaine ou deux de mouvement et ils s'y mettent, hein.
Mais attends, parce que quand même, pour la première fois depuis 6 ans, le syndicat a organisé, non pas une manifestation, mais malgré tout un rassemblement près de l'Assemblée nationale le jour de l'ouverture des discussions, le 3 mai.
Et on ouvre la grande page « On nous prend pour des fourmes » avec un article d'Acrimed à Action Critique Média qui a donc un positionnement salutaire au sens où ils prennent ce qui se passe dans certains médias bien pensants et ils découpent ça en petits morceaux et ils critiquent. Alors c'est cette fois-ci ce qui s'est passé sur France 2 dans le journal de Pujadas que malheureusement je ne regardais pas, mais heureusement ils sont là pour nous montrer ce qui s'est passé suite aux grèves et en particulier avec ces commentaires à sens unique contre les grèves et la CGT. Eh bien il y a l'éditorialiste politique de cette chaîne France 2 qui était invité par Pujadas et donc bonsoir David et donc David Pujadas donc quand même ça c'est des millions de personnes qui regardent. merde, hein. Est-ce qu'on assiste là à une radicalisation de la CGT? Tu sais, c'est un peu comme tu te dis, est-ce qu'on te prend pour un con? Voilà, tu n'as pas tellement le choix. Alors, l'éditorialiste, elle dit, bah, clairement, David, c'est une radicalisation tous azimuts et une technique révolutionnaire bien orchestrée où comment paralyser un pays malgré une base rabougrie et même si le mouvement s'essouffle. Voilà,
ce qui est hyper bien quand on dit radicalisation déjà en 2016, c'est que tout le monde pense directement Daesh.
Alors justement, petite parenthèse, c'est bien que tu dises ça, Franz-Olivier Gilbert a dit dans Le Point, la France est soumise aujourd'hui à deux menaces, Daesh et la CGT. Voilà, donc je vous disais, c'est la section où on nous prend vraiment pour des fourmes. Donc cet éditorialiste qui continue, mais regardez cette affiche, c'est une affiche de, sûrement pour appeler à la manifestation, on y voit des bâtons de dynamite, un slogan « on bloque tout », bref, on joue la rue et l'affrontement total, la CGT de Philippe Martinez veut tout faire sauter. Voilà. Et après elle conclut en disant « exiger purement et simplement le retrait de la loi de travail, ben c'est jouer un va-tout qui n'a pratiquement aucune chance d'aboutir ». Voilà. Et puis Jadas conclut en disant « Merci Nathalie ». Voilà, c'est juste pour signaler quand même que cette page de difficultés contre cette loi travail met en lumière une façon de manipulation. Alors d'État, je ne sais pas, hein, déjà que les flics essaient de casser les manifs par une technique d'État. Ben, en tout cas, ce qui se passe sur les médias dominants, ce n'est pas génial. Alors juste pour parler aussi de France Culture, pendant qu'on est dans les petites phrases sympas, qui a dit, j'ai constaté au cours de ces 4 années que la tragédie venait d'installer dans le récit. Je m'y étais préparé, je savais qu'à tout moment le pire pouvait surgir. Et il a surgi, aujourd'hui je suis dans l'histoire.
François Hollande.
Voilà, ça veut rien dire, je vous rassure. Et qui a dit, toujours sur France Culture, un responsable politique au sommet de l'État a un peu un rôle équivalent à ce que peut avoir un père de famille ou une mère de famille à l'égard de ses enfants.
France Culture. Mais c'est toujours François Hollande.
Eh bien non, c'est Naja Vallaud-Belkacem. Ah.
Combien sommes-nous à ne rien casser, non par désaccord, mais par peur ou manque de préparation? Ce n'est pas l'envie qui manque. Puis vint le tour de la police avec ses bouteilles jetées sur les lignes bleues postées tout autour de nous. S'attaquer directement à des individus, même en uniforme, pose question. Mais enfin, la police, on connaît. On a mangé des coups déjà, on a soutenu les familles de ceux que la police assassine, à qui justice n'est jamais rendue. On a été aspergé de gaz lacrymogène, on a vu le viseur du flashball bien en face. La police finit par attaquer même les plus sages dans les cortèges. Même les plus sages des cortèges. Nos corps blessés s'en souviennent. Alors, entre ceux qui donnent les coups tous les jours et ceux qui les rendent une fois de temps en temps, le choix est vite fait. Nous sommes toutes et tous des casseurs, comme disait une banderole. Il arrive que la police abandonne un peu la rue lorsque des gens déterminés lui font face. Et quand il s'agit de faire face aux forces de l'ordre, la frontière entre l'attaque délibérée et la défense improvisée est si mince qu'il ne nous est pas venu à l'idée d'aller pinailler sur les choix des uns ou des autres. Trop content qu'enfin la rue soit un peu libérée de l'ordre capitaliste, puisqu'il faut bien appeler les choses par leur nom. Qu'une voiture brûle ne nous fera pas changer d'avis. L'accusation de tentative d'homicide volontaire pourrait nous faire rire tellement elle est grotesque après une attaque certes violente, mais où nul ne peut sérieusement déceler une quelconque envie de tuer. La blague serait drôle si elle ne risquait pas d'envoyer des gens en prison pour longtemps, simplement parce qu'ils ont eu le tort d'être sur les listes hasardeuses des services de renseignement. La préfecture elle-même reconnaît qu'elle a arrêté ceux qu'elle avait sous la main, sans aucun élément à charge. C'est pour leur présence depuis des mois en tête de manif, à nos côtés, que certains payent aujourd'hui le prix fort. On les soutient, comme on soutient toutes celles et ceux qui ne peuvent plus être là à cause des contrôles judiciaires, d'interdictions de déplacement ou de blessures. Alors oui, la tension monte. Mais peut-on imaginer gagner sans qu'il y ait des tensions? Quoi qu'on fasse, le gouvernement réprimera celles et ceux qui s'opposent à lui. Personne ne s'intéresse aux élections de l'année prochaine. Personne ne croit à la possibilité d'élire une personne courageuse qui irait seule affronter les banquiers pour changer les règles du jeu. C'est dans la rue que ça se passe. Ça tombe bien, nous y sommes. Foulard et lunettes de protection en poche pour pouvoir y rester.
Voilà, c'est dans la rue que ça se passe. On peut rappeler quand même qu'il y en a certains de nos camarades qui ont perdu un œil, d'autres qui sont peut-être encore dans le coma, sans parler des blessures communes. Voilà, de façon un peu plus légère, toujours dans cette histoire d'incompréhension entre les gens normaux et les gens moins normaux, il y a, et on va reprendre peut-être le sourire, il y a quelqu'un qui vient de faire perdre des marchés à toute l'économie du t-shirt. Toutes les boîtes de t-shirts sont en train de couler. C'est Emmanuel Macron. Vous l'avez peut-être vu à la télé. Il a regardé un gréviste. Il lui a dit « Tu me fais pas peur avec ton t-shirt. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. » Voilà, donc ça c'est bien une façon d'illustrer ce décalage complet entre des gens qui n'ont rien compris. parce que moi, si je travaillais ou si je travaille, c'est pas un costard que je vais m'acheter, c'est un vélo par exemple. Alors justement, Macron, c'est con parce que il a la choumoune, tu vois, il a vraiment la choumoune. Et donc non seulement il n'aime pas les t-shirts, mais en plus il n'aime pas l'ISF, l'impôt sur la fortune.
Étonnant.
Il trouve que c'est pas génial. Il trouve qu'en fait, il faudrait mieux augmenter la taxe sur tout ce qui est l'héritage, tu vois. Il trouve que l'ISF, c'est pas adapté. Et il payait pas l'ISF. Mais ce qui est con, c'est qu'en fait, ils sont allés chatouiller sa maison au Touquet, tu vois. Il se trouve qu'elle doit être pas trop mal. Et du coup, son plafond de revenus et de tout ce qu'il a, son patrimoine, fait que désormais il va payer l'ISF. Donc il se trouve à être pourfendeur de l'ISF, il n'aime pas les t-shirts, mais en fait, désormais, on le sait, c'est Mediapart, c'est le Canard Enchaîné qui le disent, Macron va devoir payer l'ISF. Donc on a encore un Gus au gouvernement qui est sur une autre planète et en tout cas pas la nôtre.
Alors maintenant, plusieurs histoires, on va revenir aux flics là et à ce qui se passe en ce moment. Avec plusieurs petites histoires, on va commencer par celle-ci. Deux manifestants qui avaient été blessés dans la manifestation du jeudi 26 mai contre la loi El Khomri ont été mis en cause pour attroupement après avoir porté plainte contre la police.
Étonnant.
Voilà ce qu'il raconte sur Facebook. Suite aux violences policières de jeudi dans la manifestation et après avoir fait constater mes blessures suite à des coups de matraque et des tirs de gaz lacrymo dans mon dos, avoir fait constater mes blessures auprès d'un médecin à l'hôpital de on s'en fout parce que déjà je sais pas dans quelle ville ça se passe en réalité. C'était écrit au départ, mais ça doit être dans la ligne que j'ai enlevée. Donc le médecin m'ayant donné 5 jours d'ITT et 10 jours d'arrêt de travail. Vendredi, je suis allé au commissariat pour porter plainte pour violence policière. Lors de l'audition, le policier nous menace implicitement. Si nous portons plainte contre eux, il se peut qu'il y ait des représailles. J'ai reçu une lettre, ainsi que ma camarade, qui était avec moi à ce moment-là, nous convoquant au commissariat pour audition en tant que personne mise en cause dans le cadre d'une enquête pour des faits d'attroupement après sommation. Alors, juridiquement, ouvrez les guillemets, c'est la loi, le fait pour celui qui n'est pas porteur d'une arme de continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Bon, cette infraction ne fait jamais l'objet de poursuite, mais on voit là qu'elle peut quand même servir comme un bel outil d'intimidation. L'article précisait que quand même, si on a envie de porter plainte contre les flics, on peut toujours, dans tous les cas, porter plainte. Ça peut se faire au commissariat, ça peut aussi se faire en écrivant au procureur de la République, ce qui évite de se retrouver face à un flic pour dénoncer d'autres flics.
Et la police des polices, il n'y a pas moyen de leur écrire directement ou quelque chose comme ça
Oui, mais je pense pas que ça... Je pense que tu peux dénoncer des faits, mais pas porter plainte.
En tout cas, je pense qu'il y a toujours moyen de se renseigner... sur des permanences d'avocats qui doivent se tenir au palais de justice, notamment à Lyon, là, en l'occurrence. Alors, je n'ai pas les dates exactes, mais je pense que si vous tapez palais, permanence d'avocats, tribunal de grande instance Lyon, vous pouvez avoir les renseignements.
Alors, on va continuer avec une histoire qui, cette fois, n'a rien à voir, enfin, mais qui n'est pas du tout directement liée à la loi travail ou aux protestations contre la loi travail.
Mais qui a à voir avec la police.
Mais qui a à voir avec la police, qui est une histoire dont vous avez déjà parlé, il y a un mois, deux mois, Et ben, je pense il y a plutôt un mois, puisque c'est le 29 mars dernier à Melun qu'une fillette de 11 ans a été blessée de deux tirs de flashball par des flics qui tentaient de disperser à ce moment-là un attroupement hostile. Bon, c'est voilà, dans un quartier. Je sais pas, il y avait des gens, ils se groupaient, ils commençaient à dire « Ouh, la police », les flics sont arrivés, ont tiré au flashball et ils ont quand même touché deux fois une gamine, ce qui à l'époque nous avait amené à, mais suite à l'article qu'on avait trouvé là, à se poser la question de comment ça se fait qu'un flic arrive comment ça se fait que la gamine ait eu deux impacts. Soit ça veut dire qu'il y a eu plusieurs flics qui lui ont tiré dessus, soit ça veut dire que le flic lui a tiré dessus, a rechargé, lui a retiré dessus. Dans tous les cas, pour que la toute petite gamine de 11 ans se prenne deux flashballs, il faut quand même que les flics, à un moment, les visaient délibérément. Donc, deux mois après, l'enquête confiée à la sûreté départementale est bouclée et la procureure de Melun a classé le dossier sans suite. Le sort de cet élève de CM2 vient rejoindre celui de multiples victimes de flashballs. Et donc, nous dit l'article que j'ai trouvé sur le site Révolution Permanente, la gamine blessée une deuxième fois par la justice après l'avoir été par la police.
C'est quand même glauque, hein.
Ouais, c'est ça. Bon, alors voilà, on a le témoignage de la frangine de la gamine là, qui raconte que bon, bah, elle rentrait chez elle avec sa sœur. Hein. La sœur de 14 ans raconte qu'elle était avec sa sœur de 11 ans. Et elle raconte, j'ai vu plein de fumée, j'ai commencé à courir avec ma petite sœur qui a commencé à se plaindre d'avoir mal, qui est devenue toute bleue et toute violette. Et bon, bah voilà, 21 jours d'incapacité totale. Des cauchemars toutes les nuits, sa mère, bah, elle va chez le psychologue maintenant, etc. Alors, attention, hein. C'est une affaire qu'on suit de près. Les policiers et la famille de la victime vont être entendus. Ça, c'est ce qu'avait dit la procureure de Melun à l'époque. Et donc, hier, le verdict est tombé et cette même procureure a décidé de classer tout ça sans suite. Cette issue de l'enquête n'est pas exactement rare, même si on peut se dire qu'elle est vraiment révoltante. Alors déjà en 2014, Mediapart avait réalisé un recensement des ravages causés par les tirs de flashball et de l'impunité qui en résulte dans la plupart des cas, qu'il s'agisse de bavures ou d'intentions volontaires. Et donc l'article de Mediapart disait « Selon notre décompte, depuis 2004, donc ça faisait sur 10 ans à ce moment-là, plus d'une trentaine de personnes ont été grièvement blessées par des flashballs. Parmi elles, 14 ont perdu un œil. Un homme est décédé à Marseille en décembre 2010. » Mais de non-lieu en relax, seuls deux policiers et un gendarme ont été condamnés.
14 ont perdu un œil, c'est bien ça que t'as dit.
Ouais. Bon alors depuis, cet article date de 2014, depuis il y en a encore eu des tonnes. À ma connaissance, il n'y a pas de recensement exhaustif, mais bon, on sait que par exemple que dans le cadre de la loi travail, on a déjà une personne qui a perdu un œil par flashball, une personne qui est sans doute encore aujourd'hui dans le coma suite à un tir de grenade de désencerclement.
On peut rappeler juste ce que c'est, les grenades de désencerclement. C'est vraiment un outil qui est censé servir aux flics dans un cas d'extrême détresse. Voilà. Et si vous regardez les vidéos, en fait, ils étaient en extrême détresse intellectuelle, je pense. Bon, ça doit être,
parce qu'ils étaient en train de se faire
normal. c'est ça. Ils ont dit putain, merde, j'ai rien, que je comprends rien à la vie. Et du coup, il a balancé la grenade et ça,
comme son nom l'indique, c'est censé être pour un flic qui se fait genre encercler par tout un tas de personnes et où genre ça où il serait vraiment son intégrité physique serait menacée et du coup il balance ça fait flipper les gens, ça fait très 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 mal, ça blesse vraiment et du coup les gens se barrent.
Et dans le cadre de ce gars qui se retrouve dans le coma suite donc à cette grenade de désencerclement qui a été tirée dans un cadre qui n'a absolument rien de ce qui est écrit dans le règlement de la police, Bernard Cazeneuve a bien sûr dit que l'IGPN donc la police des polices d'une manière ou d'une autre va prendre le cas très au sérieux, que s'il y a eu manquement à la déontologie, il y aura des sanctions. On attend Bernard Cazeneuve pour sanctionner un flic, on n'y croit pas une seconde. Quand une voiture crame quand une voiture de flic crame et que les policiers juste ouvrent la porte et descendent de la voiture comme c'était évident qu'ils allaient le faire, là, dans les heures qui suivent, il y a 5 personnes qui sont arrêtées chez elles pour tentative d'homicide. Quand c'est un manifestant qui se prend une grenade et qui se retrouve dans le coma, ou Bernard Cazeneuve fait les gros yeux et puis il attend que les gens pensent à autre chose pour classer complètement l'affaire sans suite.
Mais là, on est bien dans une technique d'État de casse de manif, quoi.
C'est ça, ouais, carrément. Vu l'utilisation massive de ce type de grenade sur ce mouvement-là, Ce serait étonnant que ce soit juste.
Un clan plein de flics. Ouais, c'est ça. C'est des décisions.
Que ce soit des initiatives individuelles de flics à chaque moment.
Vraiment de une volonté de terroriser les manifestants.
Alors, pendant ce temps, il y a un certain nombre de personnalités, d'associations, de mouvements, de moments, d'organisations qui multiplient des appels pour exiger d'en finir avec les armes soi-disant non létales, mais en réalité meurtrières des flics, les flashballs, les LBD, les tasers, les grenades de désencerclement, dont les ravages ne se comptent plus contre les manifestants, mais aussi, il ne faut pas l'oublier quand même si en ce moment on en parle moins, mais contre la jeunesse des quartiers, et puis contre tous ceux qui ont le malheur de se trouver sur le passage des flics, comme cette gamine de 11 ans, quoi. Victime sans raison, conclut l'article, d'une violence aveugle, elle n'a même pas la consolation d'un préjudice reconnu. Il est vraiment temps d'en finir avec autant d'iniquité.
Et du coup, pour continuer sur ce truc d'armes dites non létales, il y a une étude qui est sortie il y a quelques temps, alors je ne saurais pas vous la citer ou quoi, mais qui disait que on nous a vendu les armes non létales comme un truc pour remplacer l'usage du pistolet à balles réelles, tout ça. Sauf que les chiffres montrent que, par exemple, le nombre de fois que les flics ont utilisé une arme à balles réelles n'a pas du tout diminué depuis l'instauration des armes non létales. Mais du coup, toutes ces armes non létales auraient plutôt tendance à remplacer l'usage de la matraque ou du coup de poing ou de tout un tas de trucs. Du coup, le truc quand même bien bien inférieur au niveau du degré de violence, plutôt que ces armes. Et du coup, c'est des trucs qu'on voit quand même vachement en manif, quoi.
Bon, allez, on continue encore un petit peu avec la police, puis après on pourra peut-être un peu parler d'autres choses d'une certaine manière. Vous vous souvenez de cette fameuse affiche de la CGT Infocom? L'affiche qui disait la police doit protéger la population et non la frapper. Eh bien, voici la convocation qu'a reçue avant-hier le boss de la CGT Infocom, le secrétaire général ou quelque chose comme ça, à la demande de monsieur Bip, officier de police judiciaire. C'est pas moi hein, qui censure, c'est la CGT elle-même qui a mis la photocopie de la convocation sur son Facebook, mais qui a enlevé le nom de l'OPJ. Donc, à la demande de monsieur Bip, officier de police judiciaire, en fonction de la brigade de répression de la délinquance contre la personne, monsieur Robert Altman, donc le boss de la CGT Infocom, est prié de bien vouloir se présenter muni d'une pièce d'identité et de la présente convocation le lundi 30 mai 2016 à 15h à la brigade de répression de la délinquance contre la personne, dont les locaux sont situés blablabla, pour être entendu en qualité de mise en cause dans le cadre d'une procédure judiciaire diligentée selon la forme préliminaire pour laquelle vous êtes soupçonné d'avoir commis l'infraction de diffamation publique envers une juridiction, une administration publique, un corps constitué ou l'armée par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie. Bon, bref, la CGT Infocom est donc une personne privée, individuelle, de la CGT Infocom se retrouve devoir faire face à une plainte des flics pour diffamation publique. Et donc, voilà, risque tout un tas de choses.
C'était bien l'affichage.
Tout le monde déteste la police, mais alors la police fait quand même vraiment tout ce qu'elle peut pour nourrir cette détestation.
Et on se rappellera du slogan qui couvrait les murs à un certain temps du côté de Lyon, mur blanc,
peuple muet.
Pardon, je prenais pas du tout la bonne feuille.
Laurent Berger, c'est ça ?
Tout à fait. Eh ben Laurent Berger, souhaite maintenir la loi travail.
Je me rappelle qui c'est cet homme-là quand même.
Eh ben il a déclaré mercredi, ça arrive dernier, je cite, retirer la loi travail serait inacceptable. Et dimanche, il a appuyé son propos et est allé encore plus loin dans ses déclarations puisqu'il a déclaré qu'il veut, je cite, maintenir l'article 2 et davantage l'expliquer. Alors, qui c'est Laurent Berger?
Qui est Laurent Berger?
Ce n'est pas du tout le porte-parole du NEDEF, ce n'est encore moins le porte-parole du gouvernement, en tout cas pas de manière officielle. Non, c'est simplement le secrétaire général de la CFDT. Pour ceux qui connaissent moins les bisbilles des syndicats, secrétaire général, ça veut dire que c'est le type le plus élevé au niveau du syndicat, c'est le chef de la CFDT. Donc pour lui, tous les opposants au texte ont tout compris de travers. petite bande d'abrutis. Hein. Ça, c'est moi qui rajoute. Puisque cette histoire d'inversion des valeurs, alors vous savez, là où l'accord d'entreprise primerait sur l'accord de branche et donc rendrait les salariés plus vulnérables et plus isolés face à leur patron, ça, c'est notre interprétation ainsi que des millions de gens qui vont dans la rue. Alors, tout ça viendrait d'une grosse incompréhension, car d'après lui, au contraire, cela, c'est vrai, il a vraiment dit ça, cela renforcerait la protection des salariés, car ces accords seraient au plus près d'eux.
Oui, c'est cela. Ah, oui. Bah, c'est sûr.
Voilà, donc, comme les accords sont très proches des gens, du coup, ils vont revaloriser les gens, en quelque sorte.
Et puis, t'as tendance à oublier que quand t'es au travail dans une entreprise, t'es protégé.
Ben oui.
Oui, tu vois, tu pourrais même passer autant de travail à 60 heures pour être bien protégé dans la.
Ben oui, c'est ça. Au final, si t'es peut-être mieux protégé que de te balader
si
dans
tu
la
pêche. De toute façon, voilà. un accord, plus il est prêt et plus on est protégé. Comme par exemple, si on se retrouve face à un gars très très gros, très très baraqué qui nous dit comme ça file-moi ta thune immédiatement et en échange de quoi je te mettrai pas un pain dans la gueule. À ce moment-là, l'accord est vraiment très très près de nous et donc on est hyper protégé si on accepte de passer un accord avec lui et de lui filer notre larfeuille.
C'est ça.
C'est un peu ça l'idée de l'accord d'entreprise, non ?
Eh ben c'est ça, mais alors lui, il rajoute quand même une toute petite condition à ça, mais qui est quand même vraiment pas négligeable. Il dit que forcément, faut que les syndicats soient vraiment présents, enfin, faut que les syndicats s'investissent dans les petites entreprises, là où, a priori, les syndicats sont pas trop présents pour l'instant, mais pas que les syndicats ont pas envie d'y aller, mais plus que c'est difficile de monter une section syndicale dans une entreprise où on serait, je sais pas, 10 salariés. Enfin voilà quoi. Du coup, ce serait sa condition. Bon, on pourrait rajouter.
Il se trouve qu'il y a peut-être des syndicats qu'on préférait éviter dans ces cas-là pour être protégés. Non,
c'est ça. Des syndicats qui ont la signature un peu moins évidente et un peu moins rapide que Laurent Berger, qui serait un peu le Zorro de la CFDT quoi.
Et alors tout à l'heure, en cherchant le truc sur la CGT, là, je suis tombé sur une page de la CGT où les gens se demandaient si finalement Valls retire son projet de loi travail, est-ce que la CFDT va appeler à ce moment-là à la grève générale pour protester contre le retrait ?
Ah !
Rendez-vous dans 15 jours.
Suspense. Eh ben, c'est 19h35, on a le temps de s'écouter une petite musique pour se faire une petite pause ?
Ah ouais, on dirait, ouais.
Allez. c'était Rock'n'Roll Vengeance de la souris déglinguée.
Pour un Canu Info de Skinhead.
Sur Radio Canu, le 102.2. C'est bon, on a fait le tour. Je voulais vous annoncer quand même que, de nouveau, Bruxelles a pris une décision courageuse.
Ah
oui, 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 oui. Parce que, alors, il y a des gens un peu, voilà, bon, qui pensent que le Roundup, c'est pas génial. C'est, vous savez, c'est ce. Donc, c'est pas le glyphosate, c'est le glyphosate. C'est une,
une
substance chimique de chez Monsanto qui bute les mauvaises herbes, mais qui doit buter un petit peu pas mal la biodiversité aussi.
Oui, et puis qui a quand même tendance à buter les gens qui l'utilisent aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu des études diverses et contrastées pour savoir si c'était ou non cancérigène. Globalement, les études, un certain nombre d'études trouvent que oui, c'est très vraisemblablement cancérigène, et d'autres trouvent que non, non, certainement pas. Celles-là sont généralement financées par Monsanto.
Voilà, donc Monsanto, on va reparler de ce Roundup, mais juste pour rappeler que Monsanto, c'est une société américaine qui date des années 1800 et quelques. Je crois qu'en dans les années, tout début de 1900, il y a déjà eu un problème, puisqu'ils avaient un entrepôt énorme qui avait cramé, donc il y avait eu plein de morts. Après, ils se sont aussi illustrés en produisant de l'agent orange pour ou autres substances dégueu pour la guerre du Vietnam, et de fait ils se sont retrouvés aussi avec des grands stocks qui ont, c'est peut-être un petit peu tiré par les cheveux, mais qui ont été les préliminaires de la révolution verte, entre guillemets, à base de mettre du chimique partout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toutes ces unités de production de saloperies, il a fallu les recycler. Et vu qu'il y a toujours une notion très capitaliste derrière, pour faire du blé, on a, enfin du blé, du pognon.
Oh, bravo.
Ouais. Pour faire du pognon, eh bien, on a proposé aux paysans paysannes d'embrasser le chimique pour faire ça dans les champs. Je sais que mon père, moi, m'a raconté que dans les années, je sais pas, 50-60 ou peut-être un peu après, il avait vu arriver en quelques années tous ces engrais chimiques qui arrivaient dans leur exploitation, et puis aussi au niveau des politiques locales qui étaient donc en lien avec ça. Bref, Monsanto, son Roundup tout pourri, et la Commission européenne qui sait que c'est peut-être pas génial et qui dit que voilà, eh ben, elle va se donner encore 18 mois pour réfléchir. Donc elle va différer de 18 mois sa décision sur une interdiction potentielle de cette saloperie. Voilà, donc de nouveau, le titre de l'article, c'est « Bruxelles propose un sursis de 18 mois pour le Roundup ».
Alors, en sachant que si Bruxelles finit par autoriser le Roundup, chaque pays membre pourra quand même, malgré tout, choisir de l'interdire à la maison.
Voilà.
Que Ségolène Royal, ainsi que, je ne sais plus laquelle autre des ministres, ont promis que, voilà, 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 jamais le Roundup ne serait réautorisé en France. Alors bon, bien sûr, quand on connaît les socialistes, leurs promesses et la manière dont elles les tiennent, on peut se dire que si jamais Bruxelles donne le feu vert, c'est clair qu'on va respirer du Roundup à plein
de... Et voilà, et surtout que ce qui est pas mal, c'est que si tu diffères de 18 mois, et ben, vu que dans 12 mois, ça sera la droite au pouvoir, et ben, comme ça, ils n'auront plus de responsabilité dans ces histoires-là. Ouais.
Et ça laisse 18 mois quand même à l'entreprise Roundup d'aller faire du Monsanto, petit lobbying, ouais, de Monsanto, ouais, d'aller faire du petit lobbying auprès des députés européens pour dire allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, on va revenir dans un contexte post-attentat. Lundi, une personne d'origine afghane va à une salle de prière dans le 8e arrondissement de Lyon. Là, l'individu a le drôle d'idée de demander des renseignements devant la salle à plusieurs personnes. C'est alors que les personnes présentes commencent à comprendre qu'il fait partie de Daesh. Alors, c'est alors même que l'individu abandonne son sac contre le mur de la salle de prière.
Oh putain !
Daesh plus sac abandonné. C'est donc forcément une bombe. Ni une ni deux, la police est prévenue. Le quartier est bouclé, les clients d'un restaurant sont confinés à l'arrière d'une salle, les démineurs se rendent sur place. Le rouge, le bleu, le rouge, le bleu. Et bien finalement, ce ne sera ni le rouge ni le bleu, puisqu'il s'agit d'une valise qui contenait des vêtements. Et oui, simplement. Hein. Le suspect principal qui a... Et donc l'Afghan de Daesh s'est avéré être juste un Afghan et pas du tout de Daesh. Il a quand même été conduit en garde à vue puis auditionné suite à une enquête rondement menée par les services de police. Il s'avère qu'en fait il s'agit simplement d'un problème d'incompréhension entre les personnes devant la salle de prière et cette personne afghane. Du coup, voilà, cette affaire a donc été classée sans suite.
Très rapidement, on va aussi parler des réjouissances au niveau des banques, hein, parce qu'on ne parle pas assez des banques sur cette antenne quand même. La banque BNP Paribas possède quand même toujours 171 filiales dans les paradis fiscaux, dont 6 dans les îles Caïmans. Donc apparemment, c'est eux, le BNP Paribas, c'est le must sur l'aspect évasion fiscale. Et puis du coup, ces derniers mois, il y a eu des réquisitions citoyennes de chaises dans les agences bancaires. Ça c'est sympa, hein, vous voyez ce que c'est. On rentre dans les agences bancaires et on prend les chaises pour un petit peu dénoncer cette évasion fiscale qui coûte 1000 milliards d'euros par an au budget public en Europe. Alors, du coup, les responsables de BNP Paribas, 171 filiales dans les paradis fiscaux, ils ont eu du courage. Et donc, ils vont sûrement fermer leurs six filiales dans les îles Caïmans. Donc, il en restera 171 moins 6, c'est-à-dire 163.
165.
Voilà. Juste les petites filiales aux îles Caïmans de BNP Paribas, elles avaient un résultat net de 134 millions d'euros, ce qui est à peu près le budget de Radio Canu. Et quand même.
Attends, mais il faut qu'on prenne une augmentation alors.
On peut préciser, rappeler que Radio Canu est composé intégralement de bénévoles. Juste aussi des chiffres sympas. 1310 milliards de dollars sont déposés dans les banques des îles Caïmans. C'est l'équivalent des deux tiers du PIB de la France. Et aux îles Caïmans, il y a 60 000 habitants. Donc il doit y avoir quand même un petit décalage. Juste pour terminer sur les îles Caïmans, il y a pas mal d'autres banques qui y sont. Il y a la Banque Populaire Crédit CE, c'est quoi ? BPCE Crédit, je ne sais pas quoi. Il y a le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Société Générale. Miam, miam. Toujours dans les réjouissances, monsieur Yvette Lvovich Lieberman, je vous rassure, c'est pas un tendre du tout. Il vient d'être nommé nouveau ministre israélien de la Défense. Alors, c'est assez sympa, puisque ça a l'air d'être un mec super. C'est un ancien videur de boîte de nuit. Il est carrément extrémiste. Alors voilà, je lis quand même un petit peu ce qu'a pu dire certaines personnes. Donc il venait d'être nominé par le gouvernement de l'État hébreu, et donc il est carrément à droite. Il y a par exemple Moshe Yalon qui est du Likoud, donc plutôt à gauche du côté d'Israël, qui a mis en garde contre, j'ouvre les guillemets, des éléments extrémistes et dangereux qui s'emparent du pays. Donc voilà, on peut imaginer que c'est cet homme-là qui était visé. De la même façon, Avi Gabay, qui est donc du côté centre-droit, qui est ministre de l'Environnement, bah lui aussi, il a quitté le gouvernement en réclamant que, j'ouvre les guillemets, le Premier ministre reprenne ses esprits avant qu'il ne soit trop tard. Voilà. Donc c'est vraiment un homme vraiment assez peu recommandable. Alors c'est ses proches collaborateurs qui disent quand même quelque chose. Ils disent qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Donc, voilà. Donc il dit des énormités. C'est un petit peu des choses affreuses du côté de l'extrême droite qui dit, mais en fait, faut pas le prendre au pied de la lettre. Donc, quand même, au fil des années, c'est un homme qui s'est formé, qui s'est forgé une image de va-t-en guerre. Il a eu des déclarations martiales sur le Hamas, qu'il faudrait carrément éliminer. Des déclarations pas très sympas sur les Arabes israéliens déloyaux qui mériteraient d'être décapités. Et puis également sur le barrage d'Assouan.
Ah oui.
Voilà, en Égypte, qu'il faudrait bombarder. Donc, ça avait suscité la controverse, mais je vous le rappelle. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Voilà. Il y a quand même un chercheur à l'Israel Democracy Institute qui décrit cette, j'ouvre les guillemets, animal politique. C'est un homme qui est complètement dans le double jeu en permanence. Il peut dire les pires horreurs un jour et se montrer ouvert au compromis le lendemain. Mon cul, c'est du poulet. En tout cas, c'est le nouveau ministre israélien de la Défense qu'il va falloir surveiller.
Du nouveau ministre israélien, on va passer à un ancien président tchadien. Hissène Habré vient d'être condamné à la prison à vie par le tribunal de la Cour pénale internationale. Et allez hop, un petit article de l'Observateur Palga, qui est un journal de Ouagadougou au Burkina. Dis-moi qu'un procès mené de main de maître par le Burkinabé Gustave Kam. Dis-moi d'un procès, pardon, mené de main de maître. 93 témoins représentant plus de 4000 victimes enregistrées comme partie civile. Face à un prévenu pour le moins rétif qu'il a fallu à certaines séances du tribunal trimballer manu militari parce qu'il refusait de sortir de sa cellule et qui, bien qu'il n'ait pas desserré les dents, a dû écouter les récriminations des survivants et le silence pesant de ses victimes. C'est entre autres ça qu'on pourra retenir du procès de Hissène Abré qui vient de s'achever à Dakar. En effet, les juges des chambres africaines extraordinaires, après des mois de délibération, ont rendu lundi dernier là, leur verdict, la perpétuité pour Hissène Abré, l'ex-président du Tchad, poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et torture. Donc voilà, on parle d'innombrables meurtres, exécutions sommaires, détentions arbitraires, actes de torture, autant de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont été commis au Tchad pendant son règne de 1982 à 1990.
Il n'était pas un petit peu soutenu par un certain pays?
Ah, ne dévoile pas tout à l'avance.
Punaise.
Au-delà du verdict qui a réjoui les parties civiles, le mérite de ce procès aura résidé dans le fait qu'il se tienne, tout bêtement. Et parce qu'on retiendra que l'audience d'ouverture des chambres africaines extraordinaires, juridiction qui a été créée par l'Union africaine mais qui dépend de la CPI, de la Cour pénale internationale, représentait déjà l'aboutissement d'une longue quête qui a été entamée depuis plusieurs décennies maintenant pour juger un dictateur déchu dans un pays africain. Et qui soit jugé avec des compétences africaines, par des juges africains, mais avec entre autres la thune de l'Occident. Ce procès aura quand même coûté près de 5 milliards de francs CFA, pas d'euros, hein, de francs CFA, et donc a été financé par le Tchad. Le Tchad, retenez ça quand même, parce que ça va être utile pour la suite. Donc le pays où lui-même était président. Par l'Union européenne, par les Pays-Bas, par l'Union africaine, l'Allemagne, la Belgique et la France. Alors tu vois... Je pense que tu allais être médisant, mais on va y revenir.
Oui.
Mais cela en valait la peine pour la journaliste de l'Observateur Palga. Et ceux de plus en plus nombreux qui militent contre l'omniprésence de la Cour pénale internationale trouveront ici la preuve que le continent africain peut juger lui-même ses propres tyrans. Et donc pas besoin de transférer cette Cour pénale à La Haye, sans autre forme de procès. Alors voilà, parce que ce procès s'est terminé avec Hissène Abré qui a fait une seule déclaration en tout et pour tout pendant tout le procès, qui était le dernier jour où il a dit « Abat la France-Afrique ». Hissène Abré est victime de la France-Afrique.
Ah merde.
Tout à fait. Et en cela, il n'a pas tort à 100% d'une manière, puisque là, on vient de dire dans les pays qui ont raqué pour son procès, il y a le Tchad, donc il y a son successeur Idriss Déby. Idriss Déby qui alors lui est quand même vraiment le type d'un président france-africain qui est soutenu à 100% par la France et vraiment quoi qu'il fasse comme saloperie dans son pays, c'est-à-dire que Idriss Déby lui-même est responsable de massacres de masse, de tortures, de tout.
Mais ça on ferme les yeux parce qu'il faut qu'il y ait des bases militaires au Tchad, tu comprends ?
Il faut
fermer les yeux.
Et il faut un pouvoir fort.
Voilà,
pour un pouvoir fort, il faut que le pouvoir montre sa force. Donc, le Tchad a raqué pour le procès, la France a raqué pour le procès. Et en fait, Idriss Déby lui-même a été d'abord ministre de Hissène Abré pendant un certain nombre d'années, avant finalement de le renverser, de prendre sa place, et donc maintenant d'être dans les gens qui sont capables de payer pour l'envoyer en prison à vie. Alors, Hissène Abré est une parfaite ordure. Et il se retrouve en prison à vie. Bon, très bien. Enfin, effectivement, là, le procès a été vraiment. Il y a des gens qui sont venus témoigner. C'était un peu hard même. Mais pendant ce temps, combien de chefs d'État africains sont encore en place qui ont exactement le même genre de méthode que Monsieur Abré, dont Idriss Déby. Et combien de diplomates occidentaux, en particulier français, qui soutiennent ces chefs d'État? Comme la France donc avait soutenu Hissène Abré jadis et comme elle soutient encore Idriss Déby, et combien est-ce que de ces chefs d'État qui sont en place ou de ces diplomates français qui eux sont du coup diplomates de pays parfaitement démocratiques et qui adorent les droits de l'homme, on parle de la France, combien de tous ces gens-là ne se retrouveront eux jamais, jamais, jamais devant aucune cour de justice internationale.
Voilà, c'est l'info la plus biscornue de ce Canu Info, je pense. Il se trouverait que la presse officielle de Corée du Nord, voilà, chante les louanges du candidat républicain, à savoir donc Donald Trump, un homme politique avisé, un candidat à la présidence qui voit loin. Voilà ce qui a marqué dans les médias internationaux. Donc j'ai vu ça juste avant de venir. Internationaux, pardon. Voilà, c'est un article qui a été signé dans par un universitaire nord-coréen, voilà, qui indique qu'il y a beaucoup d'aspects de positifs dans les mesures incendiaires proposées par Trump, etc., etc. Le président que les citoyens américains doivent élire n'est pas l'ennuyeuse Hillary, mais Trump. Ça, c'était dans NK News. Qui est donc un
North Korean News, certainement.
Voilà, donc c'est assez étonnant et on espère qu'il va leur
donner
tort.
Alors en réalité, je pense que c'est qu'à moitié... Alors pardon, je vais faire un petit peu le spécialiste de politique internationale.
C'est cela,
Voilà, mon doctorat de politique internationale de comptoir, c'est le moment de le ressortir.
Spécialisé dans la Corée du Nord.
Spécialisé dans la Corée du Nord, les rapports internationaux.
Alors...
Donald Trump est hyper anti-interventionniste. Lui, il trouve que l'Amérique est là pour les Américains et pas pour faire la police du monde. Et du coup, par rapport à tous les présidents américains qui lui ont succédé, c'est sans doute celui qui en aura le plus rien à foutre de la Corée du Nord, du Sud, du machin, du Proche-Orient, du Moyen-Orient. Le monde qui existe en dehors des frontières de l'Amérique, il en a vraiment, vraiment rien à péter. Alors que Hillary Clinton, par contre, elle a plutôt une grosse culture de savoir ce qui est d'être au courant de la politique en Afrique ou dans les autres parties du monde. Lui, c'est à peine que l'Afrique existe, quoi. Et alors la Corée du Nord, bon, vite fait, mais...
Oui, il y a quand même un petit vernis d'horreur dans son programme qui ne fera pas oublier ce petit côté non-interventionniste à peu près acceptable.
Ne prenez pas ce que je viens de dire comme une publicité pour Donald Trump, qu'on soit bien clair.
Allez, transition.
Il est 19h55.
14h55 dans un pays imaginaire, n'est-ce pas?
Tout à fait. C'est l'heure de la fin de ce Canu Info. Juste quand même, on peut rappeler le rendez-vous de demain, qui est la visite d'Emmanuel Macron.
Ah, mais oui, on n'en avait pas parlé.
Et donc, ça se passe. Il y a une manifestation qui aura lieu demain. En même temps, j'essaie de retrouver.
Alors, si vous êtes inspecteur du fisc et que vous voulez aller lui parler de l'ISF, par exemple,
vous pouvez y aller puisqu'il va être donc redevable du fisc. Et j'ai oublié de vous parler de la dernière macronade. Ça tombe bien, bonne transition. Il vient de dire tout de suite. Le vrai respect est donc Macron. Le vrai respect est d'écouter les salariés et aussi de répondre ce que je pense. Je n'ai ni mépris ni démagogie, mais j'attends aussi d'eux qu'ils respectent les représentants des pouvoirs publics. On ne tutoie pas un ministre, on ne l'invective pas. Et tu fermes ta gueule en plus. C'est ça qu'il vient de dire.
Donc nous, on a quand même beaucoup de mépris pour lui. Et alors, il doit se rendre à 10h à l'usine Arkema de Pierre Bénite, donc demain. Il y a un appel, un rendez-vous à 10h au métro d'Oulin pour aller à Arkema. Il sera à 13h à l'hôtel de ville des Terreaux, et ensuite à 15h dans le 8e arrondissement de Lyon. Et si vraiment, alors c'est pas pour jouer sur le côté un peu, j'ai pas le mot, mais en tout cas, si on va avoir vachement plus la classe que Marseille, ils ont réussi à faire annuler son déplacement tellement ils ont foutu la pression et tellement il a flippé. Du coup, vraiment, vraiment, venons nombreux à 10h au métro d'Oulin pour ensuite aller à Arkema qui se situe pas très loin. Peut-être que Macron flippera et ne se rendra nulle part et n'osera même pas prendre son avion de Paris pour se rendre à Lyon.
Alors avant de vous lâcher complètement, vous avez peut-être remarqué en écoutant Radio Canu ces derniers temps qu'on a eu plusieurs fois le silence à l'antenne pendant des périodes un peu longues. Depuis, à ma connaissance, ça a commencé dans la nuit de samedi à dimanche. On a eu un problème avec l'ordinateur qui nous passe automatiquement de la musique quand il n'y a personne dans la radio. Normalement, il y a des gens qui étaient en train de s'en occuper quand on est rentré dans le studio pour faire ces infos. Et vu que ces gens sont la crème de la crème des informaticiens, je pense que ça ne devrait plus se reproduire dans les jours qui viennent.
L'occasion de rappeler que Radio Canu est une radio purement associative avec que des gens bénévoles. Ça peut être vous, ça peut être nous, et voilà.
Et donc, encore l'occasion de rappeler, puisqu'on a encore deux minutes, que en ces temps de mouvement social et de nombre de manifs impressionnants, tout, l'existence de la Caisse de solidarité contre les violences policières à Lyon, ils se réunissent tous les premiers et deuxièmes et troisièmes jeudis de chaque mois à la Lutine, qui se trouve au 91 rue Montesquieu 69007 Lyon. Donc voilà, ça c'est si vous avez des problèmes, si vous avez eu des problèmes avec la police durant ces manifs, ou même dans votre vie tout court, si c'est pas seulement pendant les moments de mouvements sociaux, pardon. Et par contre, ça veut aussi dire que en ce moment il y a pas mal de gens qui font appel à eux, il y a pas mal de soi sortir, du coup, et ben vous pouvez aussi leur donner de l'argent, plein d'argent, un tout petit peu d'argent suivant ce que vous avez. Vous tapez Caisse de solidarité Lyon, vous trouverez un peu les trucs sur internet, parce que je pourrais pas vous donner de date tout de suite, ce serait un peu chiant. Voilà, on a fini.
Alors théoriquement, dans une minute, ça devrait être Idée Noire, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, mais là, à travers la vitre, on ne les voit pas.
Donc tant pis pour eux, vous allez vous taper au moins une heure de bande continue.
Ouais, à la prochaine fois.
Si l'ordinateur marche.
Merci de nous avoir écoutés.
Ciao.
Ciao.